Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Cette semaine, sur France Culture, on revient sur le génocide des Tutsis au Rwanda, 25 ans après les faits. Des émissions comme Culture Monde, la série documentaire et d'autres marquent cet anniversaire et s'interrogent sur les circonstances de ce génocide et ses conséquences. Autre question, comment s'est transmise la mémoire du génocide qui a fait près de 800 000 morts à la jeunesse rwandaise qui compose l'essentiel de la population de ce pays ? Le chanteur Corneille, qui a assisté à l'âge de 17 ans au massacre de sa famille, est aujourd'hui père à son tour. L'artiste, établi au Québec, est de passage à Paris cette semaine à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Et il est mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Je suis qu'un homme, donc j'ai la phobie de l'ombre. Je m'indigne de tout et peu de choses sont de ma faute. Le problème c'est les autres, et pendant que ma sagesse résonne, un enfant meurt dans les mines du Congo. Sur mon iPhone je raconte le monde, yeah. Mes amis, oh, face au dilemme de mon ego, je n'ai pour réponse que je t'aime. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le risque qu'on apprend. On est fait de prières et de nos voeux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi?
Bonjour Corneille.
Bonjour.
S'il fallait parler de votre boîte à outils, vous utilisez quoi quand vous voulez composer un morceau?
C'est beaucoup d'imagination et des souvenirs. En fait, je me rends compte avec le temps que à force de faire des albums, c'était peut-être moins le cas pour... moins pour ce qui a trait au texte, mais en tout cas pour la composition musicale, c'est-à-dire l'harmonie, la suite d'accords, la mélodie même. Finalement, on emprunte forcément au passé. Je réarrange mes souvenirs musicaux parce que j'ai et c'est ce qui explique peut-être aussi pour la raison pour laquelle on trouve tellement de lieux communs entre des choses qui se font aujourd'hui dans la musique pop d'aujourd'hui et des choses qui sont faites il y a 20 ans et 20 ans auparavant. On est forcément dans des répétitions réorchestrées et on se passe les outils justement au fur et à mesure qu'on crée. Mais pour ce qui est des textes, ma boîte à outils, c'est mon vécu, en fait. Il y a que ça.
Ça parle d'un sentiment, d'une envie d'aborder un sujet, de revenir sur quelque chose qui vous a marqué, qui ne passe pas, qui vous plaît, qui vous déplaît.
En fait, je me rends compte aujourd'hui que souvent, le texte part de l'envie d'exprimer quelque chose que je n'ai pas eu le courage ou l'habileté ou l'esprit de faire au moment où je l'ai ressenti.
Mais le fait, Corneille, que votre album, là, le dernier album qui vient de sortir, Parce qu'on aime, et avec ce titre, Parce qu'on aime, coïncide avec les 25 ans du génocide au Rwanda, donc une histoire qui vous a marqué, puisque vous l'avez vécu profondément. Le fait que cette histoire revienne, que ce soit par les médias, comment vous le vivez ?
C'est normal que cette histoire revienne. C'est normal que cette histoire me revienne. Parce qu'on n'est pas plusieurs déjà, on n'est pas plusieurs rescapés de ce génocide à avoir l'intérêt des médias, donc forcément faut que ça revienne. Ce serait un non-sens d'être au mois d'avril par exemple, on s'approche du 6 avril, voilà, donc ce serait un non-sens de ne pas me poser une question sur sur le Rwanda, sur le génocide, sur cette commémoration. Au contraire, je pense que aujourd'hui, je pense que je le vivrai mal parce que on nous a déjà ignoré une fois. Tu vois ce que je veux dire? Chaque 6 avril est une occasion d'en reparler, et reparler de ces choses-là, c'est une tentative de réparer les choses aussi.
Est-ce qu'il y a un lien entre cet album, par exemple, et votre vécu, ce que vous avez vécu, y compris avec le génocide rwandais?
Pas directement. C'est le seul et premier album où il n'est pas question du Rwanda. Pas comme ça, en tout cas. Pas du génocide, pas du... Il est question d'un nouveau départ.
Mais n'est-ce pas lié, justement?
Bah, bien sûr. Implicitement, mais bien sûr. Bien sûr. Mais de toute façon, je serai toujours lié à cette histoire et à ce pays. Ça m'a construit. Ça a fait qui je suis, ça explique qui je suis. Et je pense que ça ne cessera pas. L'amour dont je parle dans cet album est d'autant plus significatif, ou a d'autant plus de force, parce que j'ai l'histoire que j'ai, je pense. En tout cas, pour moi, l'amour signifie encore plus pour moi parce que j'ai de réelles raisons de ne pas éprouver la moitié de l'amour que j'éprouve pour l'autre. Là, en l'occurrence, pour cet album, c'est l'amour entre mon épouse et moi. Mais cet amour ne serait pas possible si je ne portais pas en moi un amour intrinsèque pour l'autre. Je porte en moi beaucoup d'amour pour l'autre. J'ai envie d'aimer l'autre, j'ai envie d'accepter l'autre. Et je ne pense que ça n'aurait pas la même portée sans cet horrible génocide, je pense. Je suis même pas sûr que j'en sentirais le... Je ne sais pas si je serais en mesure de reconnaître la vraie valeur de cet amour dont je parle, même si c'est un amour de couple qui peut sembler banal.
Et comment cette mémoire vous est présente dans votre vie, Corneille?
Ah ben, cette mémoire, elle s'est matérialisée sur les visages de mes enfants. C'est ça la nouveauté, c'est que cette mémoire s'est matérialisée sur les traits de ma famille disparue que je retrouve sur mes enfants. Donc ça m'a forcé à renouer avec mon passé, à me réconcilier avec mon passé, le réinviter dans mon quotidien, puisqu'il était là. Je pense que j'aurais pu rester coupé du Rwanda, et justement sans mes enfants, peut-être que le 6 avril, un 6 avril, je vous aurais dit non, là, le Rwanda, franchement, ça me prend la tête, ça fait tellement longtemps que j'en parle, j'ai envie de passer à autre chose. J'avais besoin de me détacher du Rwanda avant les enfants. C'était un besoin. Avec l'arrivée des enfants, j'ai besoin de renouer avec le Rwanda.
Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ceux qui avaient 17 ans, comme vous, Corneille, à l'époque des massacres, du génocide, sont aujourd'hui des parents, des pères, des mères, et que se pose la question de la transmission, y compris de la transmission de cette histoire-là?
Absolument. J'ai aujourd'hui l'âge que mon père avait quand il a disparu. Mon père est mort à 42 ans, j'ai 42 ans aujourd'hui. Donc oui, la question de la transmission se pose. Plus que ça, elle est primordiale. Pour continuer, je ne conçois pas un avenir pour mes enfants où le Rwanda ne leur est pas expliqué, où le Rwanda ne leur est pas raconté. Et oui, il y a le génocide, mais il y a le reste aussi. Il y a ce qu'il y avait avant, il y a ce qu'il y a eu après. Il y a un pays, il y a un peuple, il y a une histoire, une langue, des traditions. Je ne conçois pas un avenir où mes enfants soient complètement déconnectés de la terre sur laquelle leur propre père a été enfant. Pour moi, il faut voilà, c'est ouais, je pense qu'il y a des cordes qu'on peut pas couper, je pense qu'il y a des liens qui ne se coupent pas. On a beau vouloir s'en détacher, puis parfois il faut le faire parce que c'est une manière de survivre. Mais à un moment donné, on revient à la source.
Comment transmettre cette histoire, Corneille? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez? Est-ce que ces questions sont obsédantes ou pas du tout? Parce que vous êtes un artiste, vous arrivez à vous exprimer par différentes manières, en passant par la musique, par la poésie. Je rappelle que quand même, cette histoire-là, vous avez réussi à lui donner une place dans votre vie artistique, dès votre premier album.
Parce que c'était obsédant, justement. C'est parce que c'était à ce point obsédant que je lui ai fait beaucoup de place. Et ça n'a pas cessé de m'obséder. Hein. Ce retour au Rwanda, c'est un truc qui m'obsède aussi. Parce que c'est une pièce manquante de ma nouvelle identité. Je suis même pas sûr que ça s'explique rationnellement. Hein. Il y a des jours où je me lève et si je vois une nouvelle par rapport au Rwanda, je vais me jeter dessus et si c'est une bonne nouvelle, je vais être heureux, alors que je ne suis pas. Plus qu'une bonne nouvelle qui provient de la Russie ou du Chili. Tu vois ce que je veux dire, c'est...
Mais concernant le génocide, est-ce que vous avez l'impression que vous connaissez toute l'histoire ou que l'histoire continue à s'écrire ou qu'il y a quelque chose qui vous manque?
Mais je peux pas connaître toute l'histoire. De toute façon, c'est la trahison de l'histoire. C'est la trahison de l'histoire, c'est que premièrement, elle n'est vue et racontée que par le prisme de l'individu qui la voit et qui la raconte. Et tous les événements étant sujets à interprétation, entre le moment où l'histoire est en train de se passer et le moment où on se donne le droit ou le moment où on est enfin prêt à la raconter, on a déjà des partis pris. On a passé du temps à forger son parti pris, à se dire de quel côté on est ou de quel côté on veut être. Et forcément, ça fait une interprétation biaisée de cette histoire-là. Donc au moment où on l'écrit, on est en train déjà de la réécrire.
Est-ce qu'elle a évolué ces 25 dernières années, depuis vos 17 ans jusqu'à aujourd'hui?
L'histoire elle-même n'a pas évolué, c'est mon rapport à elle qui a évolué. J'ai moins de colère, plus de compréhension, je suis moins catégorique, j'ai moins de certitude, en fait. Moins de certitude sur les intentions, les motivations des uns et des autres. Ouais, il y a un lâcher-prise, quoi. Il y a un lâcher-prise. L'idée de raconter l'histoire, avec un grand H, de toute façon, vient du fait qu'on a envie de contrôler celle-ci, on a envie de contrôler l'histoire, on a envie qu'il y ait eu une version de cette histoire, et donc on s'assure qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà, c'est ça. Alors que ce n'est jamais ça. Et moi, je lâche prise. J'essaie de lâcher prise. Je sais que j'ai perdu ma famille, je sais dans quelles circonstances je les ai perdues. Le reste, je dois trouver l'humilité de dire... Parce qu'il faut chercher un responsable, évidemment. Il faut toujours chercher un responsable. D'ailleurs, dans la justice, c'est toujours le grand problème. C'est est-ce que si tu punis l'agresseur par la peine de mort, est-ce que ça t'apaise pour autant? C'est toujours ça. Et je me dis que non. Moi, ce qui m'apaiserait davantage, c'est de moi déjà de tremper avec mon rapport avec ce pays, non pas d'oublier, mais d'accepter les horreurs que j'y ai vues comme étant des choses qui appartiennent à un passé et qu'il y a un nouveau Rwanda qui existe aujourd'hui et que voilà et que ça m'apaise assez pour vouloir y retourner.
C'est le cas, vous y retournez de temps en temps?
Non, j'y suis pas retourné encore. J'y suis pas retourné encore, mais j'aimerais bien un jour. Et puis ensuite, le plus important, c'est que mon pays aille bien. C'est que j'ai l'impression que mon pays va bien et que le peuple rwandais est réconcilié. Ça, ce serait l'ultime...
Ça l'est. Vous pensez qu'on est passé à cette réconciliation tout en reconnaissant le génocide?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut se réconcilier aussi rapidement après 1 million de morts. En fait, j'en parle maintenant, puis je me dis que je suis peut-être dans le, c'est peut-être un peu utopique. C'est beaucoup de gens qui ont transmis à beaucoup de gens énormément de traumas. je pense que ça prend plus qu'une génération. Peut-être même deux. Mais c'est mon rêve ultime.
Pourtant, Corneille, votre histoire, ce drame que vous avez vécu, c'est aussi une manière de raconter à vos enfants ce qu'est l'amour, de rappeler que vos parents se sont aimés alors qu'ils étaient de deux tribus qui se sont fait une guerre atroce, une guerre incroyable, un massacre. Ça devient presque le récit du monde, au-delà même de ce cas particulier du Rwanda.
Ouais, puis même ça devient l'histoire d'un espoir en fait, parce que c'est on parle beaucoup d'immigration, la notion de l'étranger qui revient, voilà, ça c'est un petit peu le thème à la mode. Mais finalement que c'est ça, hein, l'amour, encore une fois. Peut-être que l'amour va finir par confondre l'homme, parce que s'il y a une chose qu'on ne choisit pas, contrairement à ce qu'on pense, je pense moi, c'est la personne de laquelle on tombe amoureux. On peut très bien s'imaginer deux personnes qui appartenant à deux camps opposés tomber amoureux et confondre tout leur entourage. C'est déjà arrivé, ça arrive tous les jours. Mais qu'est-ce qui naît de ça? Si les choses sont bien faites, il naît un nouveau genre d'êtres humains qui sont faits de plein de choses comme ça, qui sont censés être en opposition et qui finalement sont forcés de coexister. C'est peut-être ça l'espoir, c'est peut-être ça l'avenir, je l'espère en tout cas. Mais par rapport au Rwanda et ma famille, c'est au-delà de deux ethnies et tout ça, c'est aussi le fait que l'amour peut être tout ce dont un être humain a besoin pour affronter la vie, pour faire face à la vie. Parce que c'est ça, la fameuse boîte à outils, justement, elle n'est jamais assez grande, elle n'est jamais assez remplie. Un cancer, un accident de voiture, des problèmes financiers parce qu'il y a une crise, tout ce qu'on ne contrôle pas est inévitable, forcément. Alors comment on fait ? L'amour, ça peut être la défense ultime.
Il était une fois, on a déjà eu le ventre plein d'avenir, y a pas si longtemps que ça. On comptait les jours de nos soupirs, on nous a laissés pour compteur. On a payé cher, de notre innocence. On nous a couverts de honte, mais prends garde à celui qui rêve en silence. Regarde-nous, et tout ce qu'on peut faire avec rien du tout. On est toujours debout, on a inventé l'amour en dépit des coups. Génération papa outé, génération maman désolée. Regarde-nous, et tout ce qu'on a fait avec rien du tout.
Regarde-nous, extrait de son dernier album Parce qu'on aime. Merci Corneille, merci d'être venu, merci pour votre témoignage. D'autres témoignages sur France Culture ce dimanche dans l'émission L'Expérience de 23h à minuit. D'autres jeunes qui avaient le même âge que vous pendant le génocide des Tutsis et qui aujourd'hui sont parents viendront témoigner au micro donc de L'Expérience ce dimanche et juste avant, toujours donc le dimanche soir, dans le cadre de Théâtre et Compagnie, on fera entendre le texte Dans le nu de la vie, récit des marées rwandais de Jean Hatzfeld. Bonjour Oriane Jeancourt du magazine Transfuge.
Bonjour Toufik.
Alors, avant de parler des coups de cœur de votre mensuel, on va rester sur cette semaine spéciale sur France Culture pour marquer le 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Et vous avez lu un livre, celui de Johann Smadja, « J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi ». Ça vient de paraître chez Belfond.
Oui, absolument, et c'est un premier roman qui m'a beaucoup marqué. Et en effet, je me suis dit que c'était une bonne idée d'en parler, comme vous faites cette semaine spéciale. Alors, c'est l'histoire de deux femmes. C'est extrêmement bien construit, puisqu'il y a d'une part une journaliste, Sacha, qui se rend en Afrique du Sud, et puis peu à peu au Rwanda, puisqu'on est en 94, donc au moment du début du génocide. Et puis une autre femme, Rose, qui elle est tutsi, muette, mère d'un petit garçon. On va la découvrir par des lettres, va subir le génocide. Et donc c'est entre les voix de ces deux femmes, et entre elles deux il y a un homme qui est le mari de Rose, un médecin, c'est à travers les voix de ces deux femmes qu'on va découvrir petit à petit l'horreur en train de se mettre en place et la mécanique du génocide. Et c'est ça qui m'a profondément frappée dans ce roman, et c'est peut-être ça d'ailleurs que peut le roman au-delà du documentaire. Et bien c'est de montrer le rythme de l'horreur qui arrive. Et vous voyez, au début du livre on est dans quelque chose de très doux, de très tranquille. La mère, quand elle parle de son quotidien, c'est un quotidien avec les paysages du Rwanda, très doux, très avec la cuisine, enfin le bonheur quotidien, et puis peu à peu l'horreur qui surgit s'installe. C'est vraiment le rythme que réussit à faire entendre Smadja du côté de la journaliste aussi. Au début elle ne se doute de rien, et puis petit à petit dans son enquête elle va aller de catastrophe en catastrophe, d'horreur en horreur, et découvrir beaucoup de choses. Évidemment le génocide en marche, mais aussi le rôle très très étrange, très ambigu, très passif des casques bleus, il faut bien le dire, aussi l'opération turquoise et toute son ambiguïté, hein, dont qu'on ne cesse d'interroger et de réanalyser aujourd'hui, et puis aussi le rôle de la Croix-Rouge qui lui est assez héroïque, hein. La Croix-Rouge a joué un rôle tout à fait héroïque pendant le génocide, et c'était important aussi de le dire. Je crois que Johann Smadja connaît bien ça parce qu'il a travaillé dans l'humanitaire, et ça se voit.
Et je rappelle le titre de cet ouvrage édité chez Belfond, J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi, recommandé par France Culture et par Transfuge. D'autres coups de cœur, Oriane Jeancourt?
Oui, tout à fait, un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle I am, I am, I am, de Maggie O'Farrell. Je n'ose vous traduire le titre, mais cette idée...
Toujours chez Belfond d'ailleurs.
Toujours chez Belfond, oui, alors c'est un hasard, hein. Mais voilà, Maggie O'Farrell, je ne la connaissais pas, elle a pourtant écrit plusieurs romans de facture très très romanesque, assez classique, mais alors là on n'est pas du tout dans un roman, on est dans des mémoires, donc on est même au-delà de l'autofiction, c'est puisque cette femme jeune, je peux le dire, elle a 45 ans, eh bien, va retracer sa vie, différents moments de sa vie, à travers ce qu'elle appelle ses near-death experiences, c'est-à-dire ses rencontres avec la mort. Et alors, ce sont des rencontres qu'elle fait très jeune, puisque très jeune, elle est malade, elle a 9 ans, elle est hospitalisée, on lui dit qu'elle n'a plus que quelques semaines à vivre, donc elle raconte ça. Et puis, elle raconte, par exemple, quand elle a 18 ans, qu'elle se promène dans une montagne, qu'elle rencontre un homme, elle voit que cet homme est extrêmement étrange, il joue avec ses lunettes, et le lendemain elle apprendra que cet homme a assassiné une autre jeune fille. Il y a aussi un moment où elle est en Afrique, parce qu'elle va beaucoup voyager, et elle coule au milieu, en pleine mer, on se demande comment elle va s'en sortir, et à chaque fois elle s'en sort in extremis.
Donc, les petits rendez-vous ratés avec la mort.
Voilà, c'est un peu rendez-vous à Samara, mais donc, sauf que elle évite la mort qui l'attend. Donc au-delà évidemment de l'aspect très, très romanesque de ces différents moments de vie, c'est toute une réflexion sur comment est-ce qu'on peut dialoguer avec la mort très jeune.
I am, I am, I am de Maggie O'Farrell, c'est édité chez Belfond. Un autre coup de cœur Transfuge qui consacre sa une à un réalisateur que nous aimons beaucoup ici à France Culture, même si votre collègue et néanmoins ami et partenaire Michel Simon était très très réservé concernant son dernier film.
Il en faut bien un.
Bon.
Oui, Nadav Lapid.
Puisqu'il s'agit de Nadav Lapid, le réalisateur absolument, israélien.
Absolument, qui a eu donc l'Ours d'Or
à
Berlin cette année pour Synonyme, et que nous aimions déjà beaucoup, puisque nous avions beaucoup mis en avant son film précédent, L'Institutrice. Et donc ce jeune Nadav Lapid, eh bien là, avec cet Ours d'Or, nous plonge entre la France et Israël, puisque c'est le récit d'un jeune Israélien qui va décider de vivre en France par passion pour la France, mais aussi par curiosité pour ce pays. Il va être plus ou moins bien accueilli par un couple de jeunes bourgeois. Voilà, ça va être ce dialogue-là, cette aventure-là, une réflexion très, très sensuelle, mais aussi autour du langage, puisque le film s'appelle Synonyme, et ce n'est pas pour rien. Il nous a donné un long entretien où il parle de cinéma, il parle de sa vie, il parle d'Israël. Il a des positions radicales, même assez tranchées, sur la politique israélienne aujourd'hui, mais tout ça avec une intelligence, une de liberté. On fait aussi le portrait de ses acteurs. Enfin, tout ça est assez passionnant.
Et c'est à retrouver dans le dernier numéro de Transuge, le numéro d'avril. Merci Aurélien Jeancourt d'être passé.
Merci à vous.
On peut réécouter ce réveil culturel en passant par la page franceculture.fr, à la coordination Corinne Amar, aidée par Maël Rey, à la réalisation Vincent Bouchard, assisté à la prise de son par Souad Corsa. Le réveil culturel, c'est très tôt le matin à la radio, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, si vous êtes abonné au podcast de l'émission. À demain.